Newark de Stephen Wool. Première partie. Chapitre 1. La tribu avait élu domicile dans la vaste dépression située entre la chaîne Cuba au nord, les monts Haït à l'est et les lointains contreforts du massif Jamaï. L'herbe y était toujours verte et le gibier abondait. Les hommes se mettaient à plusieurs pour traquer les meutes errantes qui se voyaient rabattues vers les marécages et criblées d'éclats de corail. Puis ils dépeçaient les chiens sauvages et revenaient chargés de viande. Vers le soir, ils arrivaient en vue du village de Tente. Ils jetaient leur chasse au milieu du brasier préparé par les femmes et la viande grésillait dans les flammes. Ensuite, Toz piquait les morceaux du bout de sa lance de chef et distribuait la pitance. Chacun mastiquait lentement sa part de chair mal cuite et de cendre craquante. Quand les hommes avaient assez mangé, ils se retiraient et, assis à la porte des tentes, riaient grassement au spectacle des femmes et des enfants se précipitant à leur tour pour sucer les os, lécher le sang sur le sol et se brûler les doigts en cherchant des morceaux oubliés dans la braise. Ils les traitaient de mangeurs d'herbe, car la viande était en principe réservée aux chasseurs. Toz était grand et fort, le plus fort de tous. Des muscles roulés sous sa peau brune, lacérés de vieilles cicatrices. Sa barbe blonde s'étalait largement sur sa poitrine puissante, contre laquelle il avait un jour étouffé un jaguar. Et pourtant, Toz inclinait le front devant celui qui sait tout, qu'on appelait aussi le vieux. Il lui portait toujours la première part, dans sa tente, encombrée d'objets bizarres, offerts par des dieux dont il était l'ami. Le vieux avait vu naître tous les membres de la tribu. Nul ne se souvenait de l'avoir connu jeune. D'ailleurs, pour ces esprits barbares, le passé devenait brumeux au-delà de quelques saisons. Il portait, roulé plusieurs fois autour de son torse maigre, un long collier de vertèbres dont chacune avait appartenu à un chef ou à un chasseur fameux. Il ajoutait ainsi à son propre prestige celui des ancêtres disparus. Chapitre 2. Ce soir-là, le vieux sortit de sa tente et resta immobile sur le seuil, visage buriné par les flammes dansantes, attendant que les rires s'éteignissent les uns après les autres. Un à un, les hommes tournèrent les yeux vers lui. Les mangeurs d'herbes s'écartèrent du grand feu. Le vieux s'avança lentement au centre du village et parla.
« Demain, j'irai chez les dieux, »
dit-il. Un murmure courut dans la tribu. Puis Toz approcha du vieux un siège, simple bille de bois, qu'il posa d'une main sur son épaule avant de la laisser tomber derrière celui qui sait tout. Le vieux s'assit.
« Demain, » dit-il. « Je monterai dans les montagnes de Cuba jusqu'à Santiago, la ville des dieux. »«
Oh !»
firent les voix profondes des chasseurs. Les hommes firent tourner leur fronde à toute vitesse et la clairière s'emplit d'un bruissement sauvage. Les femmes dansèrent autour du feu en glapissant.
« Il ira voir les dieux. »«
Oh !»
firent les chasseurs.
« Il leur demandera ce qu'il faut faire. »
« Oh !»«
Lui seul peut faire cela. »«
Oh !»«
Lui seul peut monter dans les neiges. »«
Oh !»
Les frondes tournaient toujours. La sueur coulait sur les torses, mais les bras musclés tressautaient infatigablement au rythme rapide des poignets. Au bout d'un long temps, les litanies prirent fin. Alors, les chasseurs virèrent sur eux-mêmes, et le dernier tour des frondes vides fut stoppé par un choc puissant sur les tentes sonores formées de peaux sur les carcasses de baleines. Des baleines échouées depuis 500 ans entre les îles Cuba, Haïti et Jamaïque, quand la terre s'était brusquement asséchée, quand les continents transformés en montagnes dominèrent l'immense dépression atlantique réduite à quelques lacs saumâtres peuplés de monstres. quand de vastes prairies d'herbes malsaines, coupées tantôt de déserts, tantôt de marécages, unirent les hauteurs neigeuses d'Amérique au bloc eurafricain. Entre deux danses, Tose déposa au pied du vieux un lourd paquet de fourrure. Pièce par pièce, les femmes vêtirent le vieillard. L'un après l'autre, il tendit ses pieds sales et cornés, tandis qu'elle lui passait les brodequins de peau d'ours, auxquels on fixa par des lanières d'épaisses semelles de cuir.
« Afin que le froid des montagnes ne morde pas ses pieds !»
chantait-elle.
« Oh !»
scandaient les chasseurs. Tose bondissait par-dessus les flammes en faisant des moulinets avec sa lance. Puis on dut coudre au vieux de larges pans de fourrure autour des cuisses, autour du torse. Ses bras maigres trouvèrent asile dans un triple fourreau de peau de chien et une toque emprisonna ses cheveux gris. Quand il fut équipé pour son expédition, l'aube pointait derrière les premières collines de Haït. La cérémonie avait duré toute la nuit. Les chasseurs et les femmes montraient des traits tirés par la fatigue. Des enfants terrassés de sommeil gisaient çà et là dans la clairière, petits corps maigres agités de frissons dans le froid du matin. Le vieux se leva et dit
« Quand je reviendrai dans 4 jours, l'enfant noir mourra !»
À ces paroles, l'enfant qui somnolait la tête entre les jambes sursauta, jetant autour de lui un regard de bête traquée. Tous les yeux de la tribu s'attachaient à lui. Les femmes claquaient de la langue avec satisfaction. Les chasseurs se fouettaient les pectoraux avec des gestes lourds. Un autre enfant jeta une pierre à l'enfant noir dont l'épaule saigna. Il abaissa de nouveau la tête entre ses jambes et feignit de se rendormir pour avoir la paix. Habitué aux brimades, il connaissait le meilleur moyen d'obtenir la tranquillité. Se faire oublier. Il n'avait jamais compris pourquoi il était considéré comme un ennemi dans sa propre tribu. Pourquoi il était né noir. Il ignorait que le sang vigoureux d'une race disparue ressurgissait en lui après des générations de latence. Il paraissait avoir 11 ou 12 ans. Le vieux l'avait toujours haï sans savoir pourquoi. Une antipathie confuse germait dans le cerveau d'une brute à demi folle. Et la tribu adoptait la haine du vieux tout-puissant. Pourtant, l'enfant noir avait le regard moins borné que la plupart. Son isolement moral l'avait forcé à se distraire tout seul, à former des pensées rudimentaires. Mis à l'écart des autres, de leurs occupations, de leurs fêtes, de leurs repas, ses interminables loisirs forcés avaient décuplé en lui un certain don d'observation. Il se nourrissait de détritus et de petits rongeurs attrapés à la main et dévorés crus. Pourquoi le vieux avait-il toujours remis à plus tard son exécution? Par peur d'un choc en retour, d'un maléfice? Le fait d'avoir un enfant noir dans la tribu était extraordinaire, mystérieux, donc suspect. Mais quelles conséquences pouvait avoir sa mort, pourtant ardemment désirée? Et voilà que le vieux décidait d'en finir. La chose était certaine, le vieux avait parlé net devant tout le monde, il ne pourrait se dédire. Mais il avait eu tort d'attendre si longtemps. L'enfant noir ne croyait pas, était le seul de la tribu à ne pas croire, à la puissance du vieux. Un instinct sûr lui affirmait que le vieux n'aurait rien été sans son chapelet de vertèbres, rien du tout. Il usurpait la puissance des morts. Mais le chapelet, ça, c'était sérieux. L'enfant noir y croyait dur. Quant aux dieux, qu'il n'avait d'ailleurs jamais vus, tantôt il l'effrayait, tantôt il s'imaginait leur ami. Il voyait dans sa faiblesse un complément naturel de leur puissance. Il sentait obscurément qu'il pouvait obtenir leur protection. Ainsi songeait l'enfant noir, la tête entre les mains. Quand il perçut que l'intérêt des chasseurs l'avait quitté, il glissa un regard craintif entre ses doigts et vit que le vieux s'était mis en marche vers l'ouest, suivi à distance respectueuse par toute la tribu. L'enfant se leva et erra dans le village désert. Sa solitude l'effraya. Il courut vers la caravane et la suivit en se cachant de buisson en buisson. C'était toujours ainsi. Il craignait les autres hommes, savait qu'un jour ou l'autre, il serait sacrifié, mais il avait besoin d'eux malgré tout. Plusieurs fois, il s'était enfui, mais les dangers de la brousse le ramenaient toujours vers le grand feu clair autour duquel régnait une espèce de sécurité. Il préférait être tué par les hommes à se voir pourchassé par les meutes de chiens sauvages, à risquer d'être broyé par les dents d'un saurien. Loin devant, le vieux paraissait déguisé en ours. Il clopinait lourdement sur une pente de gravier. On entendait les ululements des femmes ricocher en écho sinistre sur les falaises nues. On voyait les silhouettes massives des hommes qui, de temps en temps, faisaient tournoyer leur fronde avant d'en frapper le sol ou le tronc des arbres. Par moments, ils cognaient tous ensemble et les vallées s'emplissaient d'un tonnerre lointain qui troublait les monstres au fond de leur retraite. Après plusieurs heures de marche, le vieux étendit les bras. Il avait atteint le niveau des coraux. Plus haut, c'était la neige, la glace, l'air raréfié où seuls pouvaient vivre les dieux ou des êtres doués comme le vieux de pouvoirs surnaturels. C'est du moins ce que croyait la tribu. Le vieux continua seul, trébuchant sur les coraux couverts de givre. On voyait son haleine fumer devant lui. Il remontait de temps en temps, d'un coup d'épaule, le sac grossier qui renfermait des racines comestibles et de la viande sèche. Chapitre 3. Tant qu'il se sentit en vue de la tribu, le vieux marcha avec dignité, sans tourner la tête. Mais quand les hurlements des femmes n'atteignirent plus ses oreilles, il jeta un bref regard en arrière et s'arrêta. Il contempla les vallées, puis leva sa tête encapuchonnée vers les hauteurs, découvrant sa denture noire dans un sourire avide. Il se racla la gorge et souilla la neige d'un crachat verdâtre. Il assura son sac d'un coup de rein et, soufflant, continua la montée. L'air vif lui brûlait la gorge, aussi rentrait-il le menton pour respirer à travers sa barbe sale, pleine de grumeaux de vieille nourriture. Sous l'action du froid, il urina sans interrompre sa marche, et sentit une tiédeur piquante lui couler le long des jambes, imprégner les fourrures, brûler un peu plus ses plaies eczémateuses. Malgré son grand âge et les fatigues de l'ascension, il s'imposait des efforts inouïs. Quelque chose l'attirait là-haut, quelque chose de merveilleux. La liqueur des dieux. Il escalada les rocs autour desquels folâtraient jadis d'innombrables requins, passa les murs de corail qui, autrefois, ceinturaient des rivages, mais ne formaient plus aujourd'hui qu'un rempart couvert de neige et de rares lichens. Enfin, la ville des dieux fut en vue. Juchée à 2000 mètres, la digue du port présentait un aspect insolite. Elle avançait en promontoire au-dessus du vide. Derrière elle, on distinguait un entassement de ruines relativement épargnées par les éboulements. Le vieux se hissa jusqu'au port, escalada les degrés menant à la digue et courut vers la ville morte. Ses semelles rudimentaires claquaient sur le ciment lézardé. Les pans de ses lourds vêtements volait à la bise glaciale, sifflant dans les ruines une chanson désespérée. Le vieux se précipita vers une grande bâtisse sans fenêtre et sans toit. On pouvait distinguer sur la façade une vieille inscription à demi rongée par les siècles. Des signes bizarres, seulement compréhensibles aux dieux. Cuban, Rome, S.A. Le vieux s'engouffra sous la voûte, se rua sur des entassements d'objets bizarres cylindriques, avec une extrémité effilée, d'un poli incroyable, de teinte brune. Le vieux brisa avec une pierre la pointe d'un de ces objets, s'assit sur le sol, et la tête renversée vers le ciel, fit couler dans sa gorge un liquide doré à la saveur brûlante. Sa pomme d'Adam remua deux ou trois fois à chaque déglutition, puis il s'étrangla. Tout ça, le visage poissé de rhum. Quand il reprit son souffle, il poussa un profond soupir, les yeux noyés de jouissance, la bave aux lèvres. Puis, il éructa bruyamment et but encore quelques gorgées. Enfin, il se mit debout et dansa d'une façon pénible en tournant sur lui-même. Il lâcha la bouteille qui se brisa sur le sol. Il resta un instant à la considérer fixement, puis éclata de rire et en prit une autre.
« Je suis un dieu !»
cria-t-il aux échos de la montagne. Il sortit en titubant de l'entrepôt, erra par les rues encombrées de débris. Il avisa une vieille affiche de plastique représentant le visage hilar d'un homme imberbe, à la chevelure lisse comme un casque, aux dents éblouissantes. Pour s'en approcher, il contourna un tas de pierres. Par un phénomène de réfraction successive, voulu par les hommes disparus depuis des siècles, les lèvres de l'homme imberbe s'agitèrent, prononçant un mot silencieux et sans signification présente. Easy Shave.
« Je suis un dieu !»
affirma le vieux à l'affiche. La moitié inférieure du rectangle de plastique décollé s'agita un peu dans le vent. Le vieux regarda cela d'un œil trouble.
« Oui !»
dit-il.
« Tu as dit oui !»
La vieille affiche usée se souleva encore un peu, agitant des signes magiques présentant cet aspect insolite. « Easy Shave, rasoir à ultrason. »«
Je suis un dieu, comme toi, comme vous !»
dit encore le vieux, en virant sur lui-même pour quêter l'approbation d'autres grandes images, plus ou moins détériorées, qui tapissaient les murs. Son mouvement le fit glisser à genoux. La bouteille roula à quelques mètres, se brisa. Il rampa vers elle, but la liqueur qui coulait à gros hoquets par l'ouverture brisée. Puis il s'endormit sur le sol, la tête couchée dans la neige souillée de rhum et de débris de verre. Dans la rue déserte, les dieux plats collés au mur gardaient leur sourire indifférent et tragique. Le vent se déchirait aux angles coupants des ruines, miaulait par les fenêtres défoncées, déséquilibrait de temps à autre une motte de neige qui s'écrasait auprès du vieux avec un bruit mat. Animés par les courants d'air, les dieux se parlaient d'un mur à l'autre, entrecroisant au-dessus du sommeil de l'ivrogne les muettes paroles de leur langue mystérieuse. Easy Shave. Coca-Cola. Visite Mars. Chapitre 4. À la fin du quatrième jour, Toz, suivi des chasseurs, partit à la rencontre du vieux. S'arrêtant au pied des premières falaises, ils guettèrent l'apparition de la silhouette clopinante et velue. La nuit tomba. Toz ordonna de faire du feu. Un chasseur sortit d'une besace une petite provision de bois sec et de mousse et frotta deux silex. Une flamme minuscule s'éleva, grandit, devint assez forte pour dévorer du bois humide et répandit une fumée âcre qui fit tousser les hommes. Ils attendirent toute la nuit. À l'aube, Toz s'approcha des falaises et hurla comme un loup, les dents découvertes.
« Viens !»
Mais sa voix se perdit dans les nuages qui couraient à toute vitesse en s'effilochant à la cime des coraux.
« Viens !»
hurla le cœur des chasseurs. Seul, le vent répondit. Toz s'engagea alors dans un défilé serpentant entre deux falaises. Les genoux tremblants d'une terreur sacrée, il avança d'une centaine de mètres et s'arrêta. Loin devant lui, une branche de sapin lourdement chargée de neige se débarrassa brusquement de son fardeau, traçant un rapide demi-cercle en l'air. Toz, les yeux embués, crut discerner un geste menaçant. Il redescendit la pente à toute vitesse et, haletant, rejoignit les chasseurs. Muscles tendus, prêts à une fuite éperdue, les hommes attendirent que Toz parlât.
« J'ai vu un dieu !» dit Toz d'une voix rauque. « Il m'a fait signe d'attendre. Nous resterons ici jusqu'au milieu du jour. »
Chapitre 5. Quand les femmes restées au village aperçurent la petite caravane des chasseurs qui sortait de la jungle, elles sautèrent sur place en poussant des cris de joie. Car le retour du vieux signifiait souvent l'arrivée de cadeaux surprenants que les dieux envoyaient à la tribu. Des morceaux de miroir brisés pour se mettre dans les oreilles, des aiguilles pour coudre les peaux, de vieilles boîtes de conserve pour puiser de l'eau au marécage. Les femmes trépignèrent. L'une d'elles tournoya à toute vitesse sur ses jambes maigres et variqueuses, bras étendus, faisant flotter autour d'elle ses longs cheveux roux et ses mamelles plates. Mais à mesure que les chasseurs approchaient, les femmes se turent l'une après l'autre, intriguées. La danseuse folle s'arrêta et ouvrit une bouche baveuse et stupéfaite. Le vieux n'était pas là. En silence, elles entourèrent les chasseurs. Avec mauvaise humeur, Toz poussa violemment le manche de sa lance dans le ventre d'une femme se trouvant sur sa route. Il marcha jusqu'au milieu du village. Il se moucha dans ses doigts et les essuya dans sa barbe blonde. Puis il fit signe aux chasseurs de jeter dans les flammes le porc sauvage qu'ils avaient tué sur le chemin du retour. Chapitre 6. L'enfant noir était resté tapi derrière une tente, cœur battant, tandis que les femmes hurlaient. Quand le silence se fit, il risqua un regard dans la clairière. Il entendit Toz annoncer l'absence du vieux. Cela était-il bon ou mauvais pour lui? Il n'aurait su le dire. Des idées fugitives et mal liées entre elles se formaient dans sa cervelle inculte. Mais les faibles images qui éclosaient puis claquaient comme des bulles dans sa tête se polarisaient peu à peu autour d'un thème central. Un choix, dû à de mystérieuses et impondérables luttes d'influence entre des pensées rudimentaires et rivales, en élimina définitivement certaines, en groupa d'autres en série, en assez grand nombre, pour que leurs forces additionnées donnassent une impulsion motrice à ses muscles. L'enfant noir se leva et fit le tour du village en se cachant derrière les tentes. Il arriva jusqu'à celle du vieux. Il dut sectionner un par un les fils épais qui cousaient les peaux entre elles et se glissa à quatre pattes à l'intérieur. Une suffocante odeur de rhum l'assaillit, l'odeur même du vieux. L'enfant noir resta un bon moment immobile et tremblant de frayeur, attendant d'habituer ses yeux à la pénombre qui régnait sous la carcasse de baleine dont on voyait les côtes rondes s'incurver au plafond. Bientôt, il distingua les détails de sa retraite. Un invraisemblable bric-à-brac l'entourait. Amas désordonnés de fourrures, bouteilles brisées, objets bizarres ayant appartenu aux dieux. Il reconnut la série de casseroles rouillées, fixées par ordre de taille, sur une bûche que le vieux sortait les jours de grandes fêtes et qu'il frappait à tour de bras pour rythmer les chants des femmes. Quand l'enfant eut constaté que son sacrilège n'amenait aucune conséquence immédiate, il choisit des fourrures à sa convenance et les adapta à sa petite taille, déchirant avec ses dents les morceaux trop longs, les cousant grossièrement comme il avait vu faire aux femmes. Il se ceintura plusieurs bandes autour de la taille pour maintenir l'ensemble et s'entortilla les pieds dans des lanières de peau de chien. Il glissa dans un sac une provision de viande sèche et passa prudemment la tête par l'ouverture qu'il avait pratiquée dans le dos de la tente. La nuit tombait. Des ronflements sonores montaient des rudimentaires abris. Deux chasseurs somnolaient auprès du feu, la fronde entre les jambes. L'enfant noir se glissa en rampant hors du village, se dirigeant vers l'ouest, gagna la brousse. Les rouages simples de son esprit étaient bloqués par une idée tenace que n'affaiblissait aucun raisonnement parasite. Retrouver le vieux. Il s'engagea dans les hautes herbes, d'où émergeait par instant la masse sombre et hérissée des buissons d'épines, et prit la piste menant à la ville des dieux. Alourdi par le poids inhabituel des vêtements, il marcha longtemps, inattentif aux ruisseaux de sueur inondant l'intérieur des fourrures. Il dut plusieurs fois s'arrêter pour renouer les bandes protégeant ses pieds. Un nuage de moustiques l'accompagnait dans sa marche. Bientôt, le terrain monta par degrés. Il quittait la vallée. Avec soulagement, il laissa derrière lui les hautes herbes d'où pouvait à tout instant surgir un fauve et escalada les premières pentes à l'herbe rase. La nuit profonde l'empêchant de distinguer sa route, il se laissait de temps en temps tomber à terre et, le nez contre le sol, reconnaissait la piste aux émanations laissées par le passage des hommes. L'odeur de l'ancêtre dominait celle des autres. Il arriva enfin aux falaises et hésita un instant à les franchir. Derrière commençait le domaine des dieux.
« Vieux !»
cria-t-il, sans oser avancer. Il tremblait à la fois de peur et de froid sous ses fourrures.
« Dieu !»
cria-t-il encore.
« Où est le vieux ?»
Il prêta l'oreille au murmure du vent.
« L'enfant noir va monter chez les dieux pour retrouver le vieux. L'enfant noir est un ami. Ami, ami !»
répondait l'écho, ricochant de falaise en falaise. L'enfant crut discerner dans ce phénomène un accord des dieux. Il s'engagea lentement dans le défilé menant à la ville morte. De temps à autre, il répétait à tue-tête
« L'enfant noir est un ami. Il vient chercher le vieux qui n'est pas venu. »
Malgré le banc de brouillard qu'il traversait, il suivait facilement les traces du vieux dans la neige. La tête courbée vers le sol, il peinait, glissait sur les pentes glacées, gêné par son accoutrement. Enfin, il dépassa le brouillard et leva les yeux. Ce qu'il vit le fit se jeter à genoux, bras étendus dans une attitude de prière et de supplication. Au-dessus de lui, la digue noire du port se profilait sur le ciel criblé d'étoiles. Derrière elle, de hautes façades d'immeubles, blancs sous la lune, regardaient l'enfant noir de leurs centaines de fenêtres aveugles. Et celui-ci pensa que ces géants de pierre aux yeux multiples étaient des dieux aux longs visages sévères, coiffés d'une frange de cheveux de neige. Se hissant, tantôt sur les genoux, tantôt à quatre pattes, il traversa le port. De temps en temps, il se prosternait en murmurant d'une voix anxieuse et précipitée.
« L'enfant noir est un ami. Il vient seulement chercher le vieux. Il vient chercher le vieux qui n'est pas venu. »
Quand il toucha le quai, il resta longtemps allongé sur le sol, attendant un geste ou un mot des dieux, attendant peut-être une punition terrible et brutale. Puis, rien n'arrivant, il se redressa et monta pas à pas les marches de pierre, les entrailles nouées par la peur. Humble petite ombre solitaire se découpant sur la neige, il s'approcha des maisons. Il suivit les traces du vieux jusqu'à l'entrée de l'entrepôt, hésita longuement à franchir le porche, se décida enfin à progresser de quelques pas craintifs, s'attendant à chaque seconde à être foudroyé. Il ressortit à reculons et s'engagea dans une rue où les traces de celui qu'il cherchait s'interrompaient, masquées par des amas de neige poudreuse. Il laissa errer son regard autour de lui et les yeux exorbités, retomba à genoux. Des visages jeunes et roses l'entouraient.
Visite Mars,
disaient les lèvres rouges d'une hôtesse de l'espace.
Elle disait la même chose inutile dans un sourire figé depuis 500 ans.
Elmer Orr articulait en silence, une figure joufflue brandissant un pot de condiments. De saisissement, l'enfant noir se laissa tomber en avant. Ses mains plongèrent dans la neige. Il sentit sous ses doigts le contact d'un corps raidi, matelassé de fourrure.
Les dieux, c'était cela, les dieux. Ils avaient l'air bienveillants.
L'enfant noir répéta.
Je suis venu chercher le vieux.
Puis il osa regarder ce qu'il touchait sous la neige. Il déblaya lentement la poudre blanche amassée autour du cadavre.
C'était bien le vieux.
L'enfant noir le secoua en criant.
Vieux !
Il faisait un geste qu'il n'aurait osé imaginer quelques heures auparavant. Il touchait le vieux.
Il lui parlait, lui,
paria qui n'avait jamais approché, celui qui sait tout, sans recevoir une pierre haineuse en pleine figure. Mais le vieux ne bougeait pas. Son visage bleu de froid s'agitait sous les secousses de l'enfant. Il gardait dans la mort un béat sourire d'ivrogne. Sa barbe était salie de neige. Une petite stalactite de glace pendait à la commissure de ses lèvres noires.
« Le vieux dort ?»
murmura l'enfant.
« Quand le vieux ne dormira plus, l'enfant noir lui dira que la tribu attend le vieux. »
Il quêta du regard l'approbation des dieux. « Easy shave !» disait un jeune dieu imberbe.
« L'enfant noir est l'ami des dieux !»
osa proclamer l'enfant. Il s'approcha respectueusement d'une affiche, la toucha. Puis, s'enhardissant, il alla toucher toutes les autres une à une. Aucune ne s'en offusqua. L'enfant noir en conclut que les dieux étaient avec lui. Le cœur débordant d'une joie nouvelle, il se perdit dans le labyrinthe des rues désertes, riant à toutes les images qu'il rencontrait, faisant voler autour de lui, à grands coups de pied, la merveilleuse poudre blanche et froide qu'il touchait pour la première fois de sa vie. Chapitre 7. Quand l'aube pointa derrière les collines, le cri d'un bébé affamé réveilla Tose. Il ouvrit les yeux et regarda d'un air stupide la lueur pâle qui filtrait par une brèche de la tente au-dessus de lui. Puis il se dressa, bousculant autour de lui ses femmes. Une pensée venait d'éclore derrière son crâne épais. Le vieux n'est pas venu. Il sortit dans la clairière. Sa peau tannée se couvrit de chair de poule à l'air vif du dehors. Comme un somnambule, il s'approcha du foyer et considéra d'un air vague les deux gardes endormis. Puis, une plainte sortit de sa poitrine profonde. Un à un, les chasseurs sortirent des tentes et se tinrent debout, la fronde roulée autour de la taille, à respectueuse distance du chef. Réveillés en sursaut, les deux gardes s'éloignèrent de Tose, qui paraissait de méchante humeur. Celui-ci resta longtemps à considérer la braise du foyer. Puis il leva lentement la tête et promena sur ses hommes un regard absent. Il ouvrit la bouche.
Tose ira attendre le vieux aux falaises,
dit-il. Il désigna un homme.
Bag conduira les chasseurs. Il les conduira à la poursuite des chiens sauvages. Ce soir, Bag et les chasseurs apporteront la viande des chiens sauvages. Et Tose ramènera le vieux quand il aura quitté les dieux. Il ramènera le vieux quand il sera descendu des falaises.
Il ferma la bouche. Le tonnerre rapidement articulé de sa voix s'éteignit derrière sa barbe d'or. Il s'arma d'une fronde, prit sa lance et sortit du village d'une foulée puissante. On n'entendit plus que le bruissement des hautes herbes dans lesquelles il avait disparu. Puis ce bruit lui-même s'amenuisa, s'éteignit. Alors Bag fit tourner sa fronde au-dessus de sa tête et dit
« Que les chasseurs suivent Bag !»
les hommes s'en allèrent. Le village resta peuplé de femmes aux cheveux pendants et d'enfants maigres au ventre gonflé qui toussaient à fendre l'âme en grattant nerveusement leurs piqûres de punaises de la nuit. Chapitre 8. L'enfant noir visita les ruines. Il franchit des éboulis, passa des cours désertes, pénétra dans les sous-sols d'un immeuble, s'y perdit et erra longtemps dans les entrailles souterraines de la ville, dans le labyrinthe des caves et des couloirs de métro. Enfin, il distingua une lueur lointaine et pensa que le jour se levait. Il se dirigea vers ce qu'il croyait une issue et arriva dans une salle bariolée de publicité où la lumière était bien plus belle et bien plus chaude que celle du soleil. Il ignorait qu'une pile au silicium, intacte par miracle, éclairait et chauffait cette salle depuis des siècles. Il se crut dans le Saint des Saints, dans le sanctuaire même des dieux. Après avoir admiré, après avoir parlé familièrement aux dieux qui l'entouraient, il se coucha sur le sol, mangea une partie de ses provisions et s'endormit paisiblement après s'être débarrassé de ses fourrures trop chaudes. Une idée nouvelle berça son premier somme. L'enfant noir dira au vieux que la tribu l'attend. L'enfant lui dira quand il sera réveillé. Mais l'enfant noir ne suivra pas le vieux. Il restera avec les dieux. L'enfant noir est l'ami des dieux.